Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 1er décembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Bon, je suis prêt à partir. Manteau, les clés. Ah, mais oui, aujourd'hui, c'est jour des poubelles. Alors, les prospectus qui traînent sur la table, bon, ça, pas de doute, c'est la poubelle jaune. Le vert, bon, je passerai au conteneur ce soir après l'enregistrement de l'épisode. Ah, les vieilles piles, ça, on ramène au magasin avec les ampoules grillées. Bon, je vais pouvoir y aller. Tiens, qui m'appelle? Ah, il manquait plus que ça. Bon, là, je fais quoi? Vous feriez quoi, vous? Est-ce que vous aussi, vous avez un tiroir chez vous que vous n'ouvrez jamais et dont vous n'êtes pas très fier? Un tiroir dans lequel il y a, disons, votre premier LG qui est tombé une fois de trop? Et puis ce Samsung Galaxy que vous avez adoré avant que la batterie ne se mette à dérailler? Et cet iPhone qui n'a plus voulu démarrer? Bon, et bien ce téléphone, je vais le ramener en boutique. Parce que les fabricants misent de plus en plus sur le recyclage de leurs produits. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle quand on pense aux 6 milliards d'appareils qui sont aujourd'hui en circulation dans le monde. L'ambition des géants de la téléphonie, c'est que, comme une bouteille en plastique, comme un sac en papier, votre prochain smartphone soit à terme un pur produit du recyclage. Et pour Apple, Samsung, Huawei et compagnie, ce n'est pas juste une question environnementale. Derrière la micro-puce de votre smartphone ou les éléments qui composent sa batterie, se cachent des enjeux financiers et géopolitiques colossaux que l'on passe à la loupe aujourd'hui. Heureusement, j'avais appelé Raphaël Bloch du service économie de l'Express avant de casser mon téléphone pour lui donner rendez-vous en studio, donc le voilà. Salut Raphaël.
Salut Xavier.
Raphaël, ça te parle, toi, le cimetière de téléphone au fond du tiroir?
Ouais, je vois très bien. Moi, j'en ai deux chez moi qui traînent dans une commode.
Bon, la différence, Raphaël, c'est que toi, maintenant, tu sais comment ça marche, le recyclage des smartphones, parce que tu as fait une grande enquête là-dessus pour l'Express. Et pour commencer cet épisode, tu nous emmènes aux Pays-Bas. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas?
Bah écoute, quand je suis parti, en fait, moi-même, je ne savais pas exactement ce que j'allais voir, si ce n'est qu'on allait parler de recyclage. Donc, on a été en fait invité par Apple à aller à Amsterdam. On a rencontré les équipes et ils nous ont emmenés du côté de Breda. Breda, c'est une ville dans le centre des Pays-Bas où Apple a une installation. C'est un grand entrepôt ultra sécurisé. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a aucun signe distinctif d'Apple, ni le nom de la marque, ni le logo. Les employés ne sont pas des employés Apple. Enfin, ça se voit pas. C'est très sécurisé. Quand on rentre sur le site, donc il faut montrer ses papiers, on est enregistré. En rentrant à l'intérieur de l'entrepôt, on passe un scanner, il faut déposer tous ses appareils électroniques. Et autour de cet entrepôt, ce qui est impressionnant, c'est que voilà, on voit plusieurs camions, quasi quotidiennement, qui viennent déposer des vieux iPhones, vieux iPads.
Mais pourquoi autant de mystères autour de ce qui semble être un centre de tri?
Ce qu'il y a à l'intérieur de cet entrepôt, outre tous les vieux iPhones, vieux iPads et vieux Macs qui sont soit reconditionnés, soit recyclés, en fait, il y a un robot. C'est l'un des petits bijoux d'Apple. Ce robot s'appelle Daisy. Et en fait, Daisy est caché dans une partie de cet entrepôt, dans une salle qui est elle-même sécurisée. Donc Daisy, en fait, il faut imaginer, c'est une sorte de grande boîte qui fait 6 mètres de long sur 2-3 mètres de large et 2 mètres de haut. Et à l'intérieur, il y a 5 gros bras mécaniques qui qui vont en fait désassembler les iPhones. Et en fait, si Apple protège autant son robot, c'est parce que c'est une sacrée machine. Il faut juste se rendre compte que Daisy est capable de désassembler en intégralité un iPhone, mais vraiment toutes les pièces en seulement 18 secondes. Daisy est capable de prendre en charge 23 modèles différents, et ça pourrait même être le 13, sauf qu'évidemment, ça n'a pas trop de sens de désosser le 13 qui vient de sortir. Donc forcément, quand on est capable de faire ça, eh bien on protège sa technologie.
Donc Raphaël, si je reprends ce fameux smartphone qui a rendu l'âme au début de l'épisode, c'est un iPhone, je le rapporte dans une boutique Apple, il part dans ce centre de tri de Breda aux Pays-Bas où donc tu t'es rendu, est-ce que ensuite il passe entre les bras articulés de Daisy ?
En fait, tout dépend de son état. S'il est encore en état de marche, il va être reconditionné puis remis sur le marché. Ce sera un appareil d'occasion. Et si effectivement, il ne marche plus, c'est Daisy qui le désossera donc à Breda. Le Daisy que nous sommes allés voir, c'est le Daisy pour l'Europe. Et puis Apple a un deuxième robot Daisy aux États-Unis, au Texas, du côté d'Austin.
Bon, vu le bruit que mon iPhone a fait au début de l'épisode, moi je suis sûr qu'il est mort, qu'il va être désossé par Daisy. Tous ces petits bouts de mon téléphone, ils viennent quoi après ?
Tous ces petits bouts sont répartis dans des grands bacs. Alors, il y a d'abord les gros bouts, hein, c'est-à-dire le micro, la coque, l'écran. Mais ce qui intéresse Apple, c'est finalement tous les composants qu'il y a à l'intérieur, entre guillemets, de ces gros bouts. Il y en a une quarantaine. Et là, c'est du lithium, du cobalt. Enfin, tous ces éléments qui sont assez rares et qui vont être envoyés à des sous-traitants d'Apple qui, eux, vont recycler toutes ces matières pour créer, en fait, les prochains smartphones, tablettes et MacBook.
Donc, si je me rachète l'iPhone dernier cri, le 13, en fait, dedans, il y aura des morceaux du 6, du 8 ou d'un 11.
Exactement, parce que, justement, ils vont être capables, donc grâce à cette chaîne de recyclage, de récupérer tout un tas de produits qui seront réutilisés au sein de la nouvelle génération.
113 millions de téléphones sont ainsi laissés à l'abandon. Et tenez-vous bien, s'ils étaient tous recyclés, cela permettrait d'obtenir 9 tonnes d'or, 19 d'argent, 200 d'étain et 2000 tonnes de cuivre.
Ça, cette chaîne de recyclage que tu nous décris, c'est celle d'Apple. Comment font les autres fabricants de smartphones ?
Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Apple parce que Apple communique énormément sur la question, mais en réalité, tous les fabricants de smartphones, évidemment, recyclent leurs appareils. Je pense au sud-coréen Samsung qui a mis en place aussi toute une chaîne avec des engagements. Ils ont annoncé qu'à horizon 2025, ils voulaient qu'il y ait donc des composants recyclés dans chacun de ces appareils.
Samsung's Galaxy Upcycling Program does exactly this and reimagines used phones into new roles.
C'est aussi le cas du chinois Huawei qui a créé ses propres usines de désassemblage en Asie.
Tu parles d'engagement pris par les fabricants de téléphones. Qu'est-ce qui les pousse à investir dans le recyclage comme ça ?
Tout bêtement, la thématique environnementale est devenue incontournable. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise est soumise à des contraintes, donc des contraintes à la fois en termes réglementaires, c'est-à-dire qu'on demande aux fabricants d'avoir des process qui sont moins polluants. Il y a aussi des contraintes en termes d'image. Quand on est un groupe comme Apple ou Samsung, ce sont des choses qu'ils doivent surveiller. Et puis, il y a aussi les performances financières. Quand vous êtes une entreprise cotée, il y a des investisseurs qui vont un petit peu regarder quels sont vos engagements sur ces questions. Le cas d'Apple est emblématique à ce niveau-là. Ils ont créé Daisy pour justement améliorer leur performance en termes de recyclage et être en mesure, d'ici 2030, de respecter l'un de leurs engagements, qui est celui d'avoir en fait un bilan carbone neutre. Le but d'Apple, et comme beaucoup d'entreprises, c'est d'avoir un impact neutre sur le climat. Et donc, pour parvenir à respecter cet engagement, il faut nécessairement mettre en place des process qui vous permettent d'être moins polluants.
Le recyclage, c'est donc un des leviers utilisés pour se verdir. Mais vous allez l'entendre, les entrailles de nos smartphones cachent aussi des promesses d'indépendance pour les géants de la téléphonie.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Raphaël, on quitte Breda, Daisy et la fin de vie des téléphones pour s'intéresser maintenant à leur naissance, à leur production. Il ne vous aura peut-être pas échappé que depuis la crise du Covid, on rencontre quelques difficultés d'approvisionnement et le milieu de la téléphonie n'est pas épargné.
La crise sanitaire, et avec elle l'essor du télétravail notamment, a entraîné une hausse de la demande de ces puces, puis une pénurie mondiale.
On ne compte plus les usines fermées ou au ralenti à cause de la pénurie de semi-conducteurs.
Oui, une puce vous manque et plus rien ne se fabrique.
Ouais, c'est vrai que les fabricants de smartphones ont pas mal de difficultés à s'approvisionner depuis quelques mois. Et le souci, c'est que quand vous n'arrivez pas à avoir suffisamment de cartes, de semi-conducteurs, enfin en fait tous les composants électroniques nécessaires à la fabrication d'un iPhone ou d'un produit de Samsung, eh bien vous êtes un peu bloqué. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec plusieurs groupes. Je prends juste un exemple, mais qui est significatif, c'est celui d'Apple. Hein. Et même eux, qui ont pourtant les fournisseurs et les moyens d'acheter à peu près n'importe quoi, n'ont pas réussi à avoir suffisamment de composants. Résultat, d'ici la fin de l'année, ils ne vendront pas tous les iPhones qu'ils comptaient vendre. Juste pour te donner une idée, le quatrième trimestre, donc les trois derniers mois de l'année, traditionnellement pour Apple, c'est la meilleure période. Pourquoi ? Parce qu'il y a Noël et donc les gens achètent énormément de produits. Eh bien, là, ils devaient vendre entre 70 millions et 80 millions d'iPhones sur les trois derniers mois. Ils ont révisé leur chiffre à la baisse de 10 millions d'appareils.
Effectivement, l'exemple est assez frappant. Raphaël, quels enseignements tirent les entreprises de ces pénuries et de la crise du Covid sur leurs approvisionnements en matières premières ?
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quel que soit leur modèle, parce qu'évidemment, Apple ne fonctionne pas comme Samsung, tous se sont rendus compte qu'ils étaient dans une situation de potentielle dépendance et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de se retrouver à court de produits, enfin de métaux précieux comme le lithium, le cobalt, le cuivre, parce que cette industrie-là utilise énormément de ces produits pour créer des smartphones.
Cette tension qui pèse sur les métaux rares, elle va empirer. On y a consacré tout un épisode de La Loupe. J'ouvre l'armoire archive. Cet épisode s'appelle « Les carences de la croissance verte », donc je vais chercher à « C ». Ah, le voilà. À l'époque, Luca Mediavilla, notre journaliste spécialiste énergie, nous disait ceci.
Selon certains analystes que j'ai pu interroger dans mon enquête, d'ici 3 à 5 ans, on pourrait commencer à voir apparaître des premières tensions sur l'approvisionnement en matière. Qu'est-ce que ça veut dire économiquement parlant ? Ça veut dire qu'on peut assister à une inflation du prix des matières premières. D'ailleurs, je relève qu'en 2021, le prix de la tonne de cuivre, il a atteint un record historique autour de 10 400 $ la tonne. Et on pourrait assister aussi à des pénuries ponctuelles, par exemple dans le cas où certains pays émergents n'auraient plus les moyens de payer pour finalement s'approvisionner en métaux rares.
Lucas parlait de tensions. On ne trouve ces métaux rares que dans quelques pays. Je te prends un exemple, le lithium. Le lithium, ça permet de faire les batteries de l'iPhone, sauf qu'on n'en trouve que dans quelques pays. La Chine a une partie des réserves. Ils ont plus de 50% des capacités de raffinage. Donc, quand on est une société comme Apple, on est exposé potentiellement à des tensions entre les États-Unis et la Chine qui pourraient peut-être déboucher sur un manque de composants pour eux. Et ça, c'est vrai que les fabricants de smartphones n'ont pas envie de se retrouver en situation de dépendance et donc ils réfléchissent à la meilleure manière de s'autonomiser.
On a donc des entreprises qui souhaitent être de moins en moins dépendantes pour leur approvisionnement en matières premières. Alors, je commence à comprendre pourquoi le recyclage les intéresse autant. Mais est-ce qu'on peut réexploiter complètement ces matières premières ?
Ouais, le cobalt, le cuivre, le lithium. En fait, la grosse différence de ces métaux critiques avec, par exemple, le plastique, c'est que tu peux les recycler à l'infini avec la même qualité. C'est-à-dire que, par exemple, le lithium qui est dans l'iPhone que tu as cassé, ils vont pouvoir l'exploiter dans le prochain iPhone et puis dans un autre, et ainsi de suite, sans qu'à aucun moment, justement, ce lithium ait perdu de sa qualité. Et en fait, quand on a compris ça, ça change pas mal la perspective parce que finalement, avec tous les appareils qui viennent en circulation sur la planète, on estime que c'est un peu au-dessus de 6 milliards de smartphones donc dans les mains des utilisateurs. T'imagines un peu les quantités de métaux rares qu'il y a en circulation.
Les chercheurs montrent qu'aujourd'hui, on a plus de métaux précieux dans les téléphones qui sont déjà construits qu'il n'en reste dans les mines.
Si Apple, Samsung et les autres arrivent à créer une chaîne dans laquelle ils récupèrent leurs smartphones et finalement ils les désossent et recyclent en circuit court tous ces matériaux, ils sont quasiment autonomes pour fabriquer la nouvelle génération de smartphones.
En fait, Raphaël, le but final du recyclage pour les fabricants de téléphones, c'est de créer un circuit fermé.
Oui, parce que c'est vrai que les annonces sur les engagements environnementaux, qu'on peut très bien comprendre, c'est une chose. Mais en réalité, ce qui motive Apple, Samsung et les autres, c'est de créer un circuit fermé. C'est-à-dire que c'est de sortir de la dépendance des fournisseurs, des tensions géopolitiques. Pour ça, ils investissent énormément. Samsung met plusieurs centaines de millions de dollars par an pour créer ses propres centres. C'est également le cas de Huawei. Du côté d'Apple avec Daisy. Aujourd'hui, ça coûte de l'argent aux fabricants de smartphones. Je veux dire, quand on met plusieurs centaines de millions de dollars sur la table, ça n'est pas rien. Mais en fait, ils le font parce que s'ils arrivent à justement recréer toute une chaîne de recyclage qu'ils maîtriseraient, ils savent que les avantages sont considérables, sachant, pour te donner une idée, qu'Apple a 1 milliard de smartphones en circulation sur la planète.
Ce que tu nous décris, Raphaël, c'est un peu le rêve des géants de la téléphonie, mais est-ce que ce circuit fermé, c'est réaliste ?
Oui, justement, ce que tout le monde se demande, ce qui est sûr, c'est que ça n'arrivera pas demain parce que on ne s'improvise pas dans le métier. C'est quelque chose de très spécial de recycler du lithium, du cobalt. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on parle de sociétés comme Apple ou Samsung. Elles ont énormément de moyens, elles peuvent investir à peu près partout. Et donc, dans ces cas-là, on peut imaginer que dans les années qui viennent, s'ils le décident, ils puissent eux-mêmes avoir leurs usines de recyclage de bout en bout pour les métaux précieux.
L'économie circulaire des smartphones, je suis en train de me dire que tous ceux qui traînent au fond de mon tiroir chez moi, en fait, c'est une mine d'or. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci.
Raphaël Bloch, on peut retrouver tous tes articles sur le site de L'Express. Pour ne rater aucun épisode de La Loupe, prenez votre smartphone en état de marche et pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Alice Ninin, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.